Shalom et bonsoir. Honneur pour moi de venir à Lausanne. C'est la première fois que je suis à Lausanne. Vous savez, quand on est en Israël, la première fois qu'on arrive quelque part dans un nouveau yishuv, quelque chose qu'on ne connaissait pas, une ville qu'on n'a jamais vue, il y a une bénédiction qu'on fait, Baruch Matziv Gevul Almana, c'est-à-dire on bénit celui qui rétablit les frontières de la veuve, c'est-à-dire la veuve, c'est la communauté d'Israël. Quand on arrive à Lausanne, il n'y a pas de bracha à faire. Mais malgré tout, c'est quand même une joie d'être avec vous. Surtout que j'ai pu faire connaissance de votre Rav, le Rav El-Kaïm, qui effectivement brille par sa qualité dans le paysage européen, du judaïsme européen. Voilà. Bon, j'en rajoute ? J'en rajoute des... Donc je dirais, c'est un rabbin souriant, rempli de sagesse. J'en rajoute encore ? Bon, ça va. Bonsoir, voilà. J'ai proposé que notre étude ce soir soit autour d'un texte talmudique que vous avez ici en photocopie. La photocopie est de mauvaise qualité, mais malgré tout, nous arriverons à surmonter les difficultés techniques. Ce texte talmudique est très important parce qu'à travers lui, nous allons pouvoir élucider certains problèmes fondamentaux qui concernent l'identité juive. Vous savez, tout le temps, on parle d'identité juive, identité hébraïque. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, on dit souvent, on a des clichés, des slogans. Le judaïsme, c'est des mitzvot. Oui, le judaïsme, c'est Eretz Israël. Le judaïsme, c'est ci, c'est ça. Bon, alors, on se demande si, par exemple, sur des problèmes très importants, est-ce que la Torah n'aurait pas quelque chose à dire là-dessus? Je pense que oui, et un des enseignements de notre maître Manitou, dont c'est la Haskara ce soir, disait que pour savoir ce que dit la Torah, il faut étudier la Torah. Et donc, nous allons l'étudier, tout simplement, pour savoir qu'est-ce que la Torah a à nous dire sur notre identité. Je précise, au cours de l'étude, nous pourrons avoir également des questions, si elles sont nécessaires pour le déroulement de l'étude. Si ce sont des questions qui demandent de longs développements, alors ce sera peut-être vers la fin. Mais enfin, c'est à vous de choisir. Vous êtes libre de ne pas être d'accord, je l'espère bien, parce que comme ça, ça sera intéressant. Voilà, vous avez devant vous donc un texte du Talmud tiré de Maseret Berachot. Vous m'entendez là, au fait ? Oui, très bien, bon, c'est bon. C'est un texte tiré tout d'abord de la Mishnah et après de la Gemara. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir avec l'éclairage qu'il y a ici. À peu près dans le premier rectangle, au milieu du premier rectangle, vous avez en gros des lettres hébraïques, matni, n'est-ce pas ? Matnitin, ça veut dire, c'est une citation de la Mishnah pour les connaisseurs. Vous y êtes ? Ceux qui n'y sont pas ? C'est très simple. Voilà, je présente ça du doigt, là, vous voyez ? Et ici, des grosses lettres, au milieu de la ligne. Vraiment, en plein centre du rectangle. Bon, cette Mishnah, ce texte de la Mishnah, est connu. Vous avez encore des feuilles là, pour ceux qui n'en ont pas, si c'est nécessaire. La neuvième ligne. Je suis fier de vous. Eh bien, à la neuvième ligne, c'est une halakha. Une halakha dont la plus grande partie se trouve, c'est un texte que vous connaissez de la Haggadah, la Haggadah de Pessah qu'on lit le soir du Seder. Donc, vous aurez un sentiment de déjà-vu. Alors, comment commence la Mishnah ? Mazkirin Yetziat Mitzrayim Baleilot. On mentionne la sortie d'Égypte le soir. Ça veut dire quoi qu'on mentionne la sortie d'Égypte le soir ? Ça veut dire qu'on la mentionne également le soir. Pas seulement le matin, mais aussi le soir. Quand est-ce qu'on mentionne la sortie d'Égypte ? Eh bien, c'est le troisième passage du schéma. Vous savez que le schéma Israël est formé de trois passages. Le premier, Shema Israël, Ve'ahavta, le deuxième, Ve'ayam Shamoa, le troisième, Vayomer. Alors, pourquoi est-ce qu'on récite les deux premiers passages tous les jours ? Tout simplement parce que la Torah dit de le faire. La Torah dit que ces paroles seront sur ta bouche. Beshor Becha Ovkumecha, à ton coucher et à ton lever, donc le soir et le matin, il faut rappeler le contenu des deux premiers passages du schéma. Pour ce qui est du troisième, le troisième, il n'est pas dit dans la Torah en toute lettre qu'il faut le dire, mais le troisième parle de la sortie d'Égypte, parle du tzitzit et parle de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, la Torah dit ailleurs, Je m'excuse d'être un peu trop technique au départ, mais vous allez voir que plus on sera technique, plus après nous allons nous envoler. La Torah dit expressément dans le livre de Devarim qu'il faut se souvenir et donc parler de la sortie d'Égypte tous les jours de sa vie. Je reprends ici le texte en hébreu. Lema'an tizkor et yom tzedecha meret mitzrayim kol yemei chayecha. Afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti d'Égypte, tous les jours de ta vie. Donc, tous les jours de sa vie, il faut parler de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que nous lisons le troisième passage du schéma. Maintenant, le problème technique qui se pose, c'est que, alors que pour les deux premiers passages du schéma, la Torah expressément nous dit qu'il faut les lire deux fois par jour, « Beshorbecha uvkumecha » à ton coucher et à ton lever, pour ce qui est de la sortie d'Égypte, la Torah a simplement dit qu'il fallait en parler tous les jours, donc il suffirait d'une fois, n'est-ce pas ? Puisqu'il faut tous les jours de sa vie parler de la sortie d'Égypte, donc il suffirait par exemple que le matin nous lisions trois passages du schéma, et le soir en lire que deux. C'est tout simple. Voilà. Est-ce que c'est clair là ? Parce que on va compliquer les choses. Si quelque chose n'est pas clair à ce moment-là, merci beaucoup. Si quelque chose n'est pas clair maintenant, c'est le moment de poser la question, parce qu'après, il n'y a aucun espoir que ce soit plus clair. Bon. D'accord. Donc c'est que tout est clair. De toute façon, vous avez, à la fin du cours, une interrogation écrite sur la question. Je reprends donc ce que dit ici la Torah. La Torah nous dit simplement de parler de la sortie d'Égypte tous les jours de sa vie, mais elle ne nous dit pas de le faire deux fois par jour. Et effectivement, le problème de savoir si le soir, on doit lire le troisième passage du schéma ou non, c'est-à-dire est-ce qu'on doit parler de la sortie d'Égypte également le soir ou non, est un sujet de controverse entre les sages de la Mishnah, les Tanaïm, qui ont discuté de ce problème. La halakha, c'est quoi, au fait ? Est-ce qu'on lit le troisième passage le soir ou pas ? Il y en a qui vous diront, je ne fais jamais arvit, de toute manière. Mais pour ceux qui font, d'accord ? On lit les trois passages du schéma également le soir. Ça veut dire qu'on parle de la sortie d'Égypte le soir. Et comme vous le voyez bien dans le texte de la Mishnah que nous avons devant les yeux, « Mazkirin yetziat mitzrayim balelot » on mentionne la sortie d'Égypte le soir, c'est-à-dire également le soir. Et là intervient un enseignement que vous connaissez de la Haggadah de Pessah. « Amar Rabbi El-Azhar ben Azaria » Rabbi El-Azhar ben Azaria disait Areani Keven Shivaim Shana, je suis comme un homme de 70 ans. Bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ce n'est pas notre sujet pour l'instant. Pourquoi il a besoin de dire je suis comme un homme de 70 ans ? Il dit Velo Zachiti Shete Amer Itziat Mitzrayim Balelot. Et je n'ai pas mérité que l'on décide de dire la sortie d'Égypte le soir. Ça veut dire que jusqu'au temps de Rabbi Lazar ben Azaria, la halakha était contraire à notre halakha actuelle. On ne lisait que les deux premiers passages du schéma le soir, et non pas le troisième. Quand est-ce que ça a changé ? Ad Shederasha Ben Zoma, jusqu'à ce qu'intervienne l'enseignement de Ben Zoma. Ben Zoma était un des élèves de Rabbi Akiva, ou en tout cas un des proches de Rabbi Akiva, et c'est lui qui a transformé, si vous voulez, la halakha, avec une nouvelle interprétation du verset. Voilà. Comment est-ce qu'il a fait ça ? Eh bien, c'est très simple. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit. Et là, on amène le verset de Devarim, dont je vous ai parlé tout à l'heure. « Lema'an tizkor et yom tzetecha me'eretz mitzrayim kol yemei chayecha » afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti du pays d'Égypte tous les jours de ta vie. Alors là, il y a une particularité du texte. Vous savez, quand on interprète un texte pour en tirer une halakha, eh bien, on s'arrête sur une aspérité du texte, quelque chose dans le texte qui a l'air superflu, et c'est de là qu'on peut tirer des conclusions. Le mot superflu, a priori, dans le texte, eh bien, c'est le mot « kol ». Ça veut dire quoi, « kol » en hébreu ? Tout, n'est-ce pas ? Donc, vous avez pu répondre à la « kol ». Donc, « kol » signifie « tout ». La Torah dit « il faut que tu te souviennes du jour où tu es sorti d'Égypte, tous les jours de ta vie ». Or, le mot « tout » est en trop. On aurait pu dire « les jours de ta vie ». Si donc on a rajouté le mot « tout », le mot « col », ça veut donc dire qu'il y a quelque chose à rajouter sur le texte. Alors c'est quoi « tous les jours » ? Qu'est-ce qu'il y a de plus que les jours ? Ben, il y a les nuits. Voilà. C'est comme ça que Ben Zoma a interprété ça. Il dit « yeme hayecha » Hayamim, quand on dit les jours de ta vie, ça veut dire le moment où il fait jour. Kol yemei chayecha, et le mot tous les jours de ta vie signifie halelot, les nuits. Jusque-là, vous suivez ? Oh, ben c'est très bien. Oui ? Ah bon. Il y a une question ? Non, j'ai cru. Et donc, le problème est de savoir comment est-ce que on sait qu'il faut lire la sortie d'Égypte le soir. Eh bien, c'est très simple, c'est le mot « kol ». Maintenant, qui n'est pas d'accord avec Benzoma ? Oui ? Ah, je savais bien qu'il y avait une question.
Non, il n'y a pas de question, je ne suis juste pas d'accord.
Vous n'êtes pas d'accord ? Pas d'accord avec... Pas d'accord avec qui ?
Avec Benzoma.
Oui, mais ça, je ne peux pas être d'accord avec lui. Non, je ne suis pas à son niveau, oui. Oui.
Non, parce que la remarque, c'est que oui. Temps, sans le col, il n'y a pas vraiment de sens dans la phrase. Donc, si on dit tu te souviendras des jours de ta vie, c'est juste incomplet.
Les jours de ta vie, ça voudrait dire non, une fois par jour.
Ça ne voudrait plus rien dire, en fait. Les jours de ta vie, ça veut dire quand tu te rappelles, quand tu veux, quand tu peux.
Ah, ça voudrait dire. Oui, mais attention. Oui, il y a un grand principe. Oui, ça je comprends. Il y a un principe dans la halakha qui est l'oba hakatuv listom et la lefaresh. C'est-à-dire, un verset ne laisse jamais rien flou. Donc, par définition, quand la Torah nous donne une mitzvah et qu'elle nous dit que ça se passe les jours, ça ne peut pas être quelque chose de libre. Parce que dans ce cas-là, il n'y aurait plus de mitzvah. C'est-à-dire, je fais la mitzvah quand je veux. Si je fais une mitzvah quand je veux, c'est plus une mitzvah. Par définition. C'est la raison de. Enfin, c'est la logique interne de l'enseignement de Benzoma. Mais non, on peut toujours ne pas être d'accord avec lui, mais le problème, c'est qu'il s'en fiche pas mal, puisque lui, depuis déjà 1800 ans, il a disparu. Voilà. Bon. Maintenant, qui c'est qui n'a pas d'accord avec Benzoma ? Pas seulement la digne personne dans sa salle d'assistance, c'est les Chachamim. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Va Chachamim Omeri. Mais les sages disaient, les sages interprétaient le verset autrement. Eux étaient d'accord aussi de dire qu'il faut interpréter le mot kol, mais ils l'interprétaient d'une autre manière. Vachachamim omrim, les sages disaient, Yemei chayecha ha'olam hazeh, les jours de ta vie, il s'agit du temps historique. Kol, mais le mot kol, lehavi limot ha'mashiach, vient dire que également au temps messianique, il faudra parler de la sortie d'Égypte. Donc, si vous voulez, du point de vue des chachamim, il n'y a rien dans le texte qui nous dit qu'il faut parler de la sortie d'Égypte le soir, parce que le mot « col » qui a été utilisé par Benzoma dans ce but est déjà pris. Il est pris pourquoi ? Pour nous dire que l'on parle de la sortie d'Égypte également au temps messianique. Voilà. Bon, jusque-là, c'est bien clair, parce qu'on va poser des questions, vous allez voir que ça va se compliquer de manière vertigineuse. Bon, je vous ai prévenu. Bon, tant pis, on va essayer. Là, je vais poser quelques petites questions. D'après Benzoma, est-ce que l'on mentionne la sortie d'Égypte au temps messianique ? Si les Chachamim avaient besoin, les opposants de Benzoma, avaient besoin du mot « kol » pour nous dire que même au temps messianique, on parle de la sortie d'Égypte, et que ce mot a été utilisé par Benzoma, alors ça veut dire quoi pour Benzoma qu'au temps messianique, on mentionne ou on mentionne pas la sortie d'Égypte ? On la mentionne pas. Oui, mais il n'y en a pas d'autre. Donc, et là ça devient très important, d'après Benzoma, au temps messianique, on ne mentionne plus la sortie d'Égypte le soir ou le matin ? Ni le soir ni le matin. C'est-à-dire la lecture du schéma se raccourcit quand on arrive au temps messianique. On peut arriver chez soi plus tôt. Ouais, c'est simple. Bien que j'ai donné ce cours quelque part une fois, on m'a dit, t'en fais pas, les rabbins trouveront un autre texte. Oui.
Il y a une discussion, ça dépend comment on voit Olam Hazeh dans la vie de Mashiach, parce que si c'est une vie comme la vie d'aujourd'hui,
alors,
il n'y a pas de différence. Si on posait le Mashiach, c'est quelque chose de différent.
Effectivement.
Alors, peut-être qu'on fait plus
de Je comprends. Mais dans ce cas-là, il faudrait... voir qu'est-ce que les Chachamim entendent, les sages, quand ils parlent des temps messianiques, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que, vous comprenez, il y a des tas d'images populaires, des images d'Épinal, sur ce que c'est que Yemot HaMashiach, le temps messianique. Il y a même des enseignements des Lubavitch là-dessus, ils font beaucoup de choses autour de ça. Mais est-ce qu'il y aurait des définitions ? Parce que si c'est quelque chose de si important, hein, le messianisme. Alors il faut bien qu'il y ait une définition dans la tradition de ce que c'est que le messianisme. Surtout qu'il y a ici une conséquence au niveau de la halakha. Parce que la halakha est comme Ben Zoma ou comme les Chachamim? Comme qui? Comme Ben Zoma. Tout le monde est d'accord? Non? Qui c'est qui n'est pas d'accord? Non, non, mais on avait vu que le début de la Mishnah était « Mazkirin Itziat Mitzrayim Balelot ». On mentionne la sortie d'Égypte le soir. Ça veut donc dire que, de manière tranchée, et c'est, d'ailleurs c'est ce que nous faisons, la halakha est comme Metzoma. La preuve, d'ailleurs, c'est que nous lisons la sortie d'Égypte le matin et le soir. C'est donc que la halakha est comme Metzoma. Mais alors, si c'est vrai ce que je dis là, et c'est vrai, alors ça veut dire qu'au moment où arrive le temps messianique, on doit raccourcir le schéma. Donc il y a ce qu'on appelle « nafkamina la halakha ». Il y a ce qu'on appelle ici une conséquence halakhique très importante. Donc, il faut définir, du point de vue de la halakha, qu'est-ce que c'est Yemot HaMashiach, pour ne pas se tromper dans la lecture du schéma. Voyez-vous. Et surtout pour pouvoir entrer chez soi plus tôt. D'accord ? Et là, ça va commencer à être problématique. Donc, ce texte-là, vous le connaissez. En gros, il se trouve dans la Haggadah de Pessah. Ce que la Haggadah, qu'on lit le soir du Seder, ne mentionne pas, c'est la suite du débat. Le débat ne s'est pas arrêté là. Entre Ben Zoma et les Chachamim, il y a eu une suite. Eh bien, la suite, on va la voir. Elle est inscrite ici dans la Gemara. Vous avez à nouveau... C'est toujours dans le rectangle, dans le premier rectangle. C'est quatre lignes avant la fin. Je sais que l'éclairage n'est pas extrêmement puissant, mais ce n'est pas grave, vous arriverez quand même. Vous avez écrit, au début de la ligne, il y a écrit « gum », en gros, n'est-ce pas ?« Gimel mem ». Ça veut dire... Gemara, très bien. Talia, on a enseigné. Amar lahem ben Zoma la Chachamim. Ben Zoma a répliqué au Chachamim. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté simplement de dire son opinion. Il a réfuté l'opinion des Chachamim. Comment? Il leur dit Vechi mazkirin yetziat mitzrayim limot amashiach. Est-ce qu'on a idée de mentionner la sortie d'Égypte au temps messianique? Quel est le contenu de cette question? Je vais vous dire quelque chose de tout simple. Pourquoi est-ce qu'il faut se rappeler de quelque chose de passé? C'est passé, c'est passé. Comme on dit en yiddish, alifat mat. Ce qui est fini est fini. Alors pourquoi est-ce que la Torah nous demande, nous oblige, de nous souvenir de choses du passé? Pourquoi est-ce que les hommes, en général, font des commémorations de quelque chose? Pour deux raisons. Tout d'abord, parce que c'est très impressionnant. C'est, ce qui s'est passé, c'était quand même assez extraordinaire, on veut s'en rappeler. Et puis, aussi parce qu'on a quelque chose à en tirer. Il y a des enseignements qu'on veut apprendre du passé, n'est-ce pas? Disons, la sortie d'Égypte, Oui, c'est... Hein? La sortie. Vous entendez là maintenant? Oui. C'est mieux? Oui. La sortie d'Égypte est un événement important parce que grâce à la sortie d'Égypte, nous avons appris beaucoup de choses. N'est-ce pas? La sortie d'Égypte, d'ailleurs, nous permet d'arriver un jour au temps messianique. C'est-à-dire, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous avons enclenché un processus historique qui, quand il aboutit, devient Yemot HaMashiach. Ah! Alors dans ce cas-là, ça sert de starter, de démarreur. Une fois qu'on est arrivé à Yemot HaMashiach, c'est une absurdité de se souvenir de la sortie d'Égypte. Ça ne sert plus à rien. Surtout que l'événement de la sortie de Yemot HaMashiach est tellement énorme qu'on pourrait dire qu'il rend minuscule, il ridiculise presque la sortie d'Égypte. On se dit, c'est ça la sortie d'Égypte, c'est rien du tout par rapport à Yemot HaMashiach. Et donc, c'est ce que dit Ben Zoma. Ben Zoma dit au Chachamim, enfin, qu'est-ce qui vous prend? Vous avez utilisé le mot « kol » pour nous dire que lors de la sortie d'Égypte, que lors des Yemot HaMashiach, on va mentionner la sortie d'Égypte. Mais pourquoi faire? D'accord? Maintenant, il ne suffit pas de... Les rabbins du Talmud ou de la Mishnah ne se servent pas simplement d'arguments logiques, ils amènent également des versets pour prouver ce qu'ils disent. Donc, Ben Zoma va également amener un verset pour prouver ce qu'il dit. Va'alo kvar ne'emar. N'est-il pas déjà dit? Et là, il nous amène un verset de Jérémie. Jérémie, chapitre 23. Et là, je vais vous lire le verset. Le verset est censé prouver l'enseignement de Benzoma, n'est-ce pas? C'est-à-dire, d'après ce verset, il ressort que lors du Yemot HaMashiach, on ne parle pas de la sortie d'Égypte. Je vais lire le verset, je vais même vous le traduire, mais je vous demande d'être attentif à une question. Où est-ce que le verset parle de Yemot HaMashiach? C'est-à-dire, pour Benzoma, le verset certainement parle de Yemot HaMashiach. On va voir, moi je vous demande, où va-t-il chercher tout ça? Donc je lis le verset. Hine yamim baim neum Hashem. Voici que des jours viennent, parole de l'Éternel. Velo yomeru od. On ne dira plus. Hay Hashem asher eila et bene Israël meretz Mitzrayim. Je jure au nom de Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Donc cette formule n'aura plus cours. Kim, on dira seulement. Hay Hashem, je jure au nom de Dieu. Asher eila qui a fait monter. Vaacher Evi, et qui a amené, et Zera Bet Israël, la descendance de la maison d'Israël, Me'eretz Tsafona, de Russie, ou Mikola Aratzot, Asher Idartim Sham, et de tous les pays où je les ai dispersés. Donc, d'après Benzoma, au temps messianique, on ne parlera plus de la sortie d'Égypte, on parlera du rassemblement de tous les exilés, de tous les pays. Il dit, j'ai pas, la Russie, c'est une mauvaise traduction. Il avait écrit Eretz Tsafona, le pays du Nord. Enfin, c'est la même chose. Alors, où est-ce que c'est Yemot HaMashiach là-dedans? Yamim Baim, des jours viennent. Oui, mais des jours viennent, c'est tout le temps. Il y a toujours des jours qui viennent. Tout simplement, de quoi parle le verset? De quel événement? Du rassemblement des exilés, n'est-ce pas? De la sortie d'Europe. Et donc, c'est ça, Yemot HaMashiach pour Benzoma. Vous avez compris? C'est-à-dire, selon Benzoma, l'événement de la sortie d'Europe est tellement important qu'il éclipse, qu'il obscurcit l'événement de la sortie d'Égypte. Surprenant. Bon, on peut très bien comprendre. La sortie d'Égypte s'est produite après 2 siècles. La sortie d'Europe, après 2000 ans. La sortie d'Égypte était d'un seul pays, celle d'Europe, d'une centaine de pays. Et la sortie d'Égypte a été le début d'un exil qui a eu lieu après, tandis que la sortie d'Europe, c'est éternel. Donc on se rend bien compte que les événements que nous vivons aujourd'hui, du point de vue de Benzoma, sont tellement gigantesques qu'il n'y a plus de sens à mentionner la sortie d'Égypte. Vous avez compris? Ça voudrait dire... Mais non, c'est... Pourquoi est-ce que ce que je vous dis là peut-être est surprenant, mais... Si on se rendait vraiment compte de ce qui se passe à notre époque, nous deviendrions fous. Parce qu'on se rendrait compte que nous sommes en train de vivre une des périodes les plus importantes de l'histoire d'Israël et du monde. Le moment où HaKadosh Baruch Hu ramène ses enfants pour l'éternité du pays du Nord et de tous les pays où il les a dispersés. N'est-ce pas? Ça, ce n'est pas Benzoma qui le dit. C'est le prophète déjà qui le dit. Et c'est sur la base de l'enseignement du prophète que Benzoma tire une halakha. Vous avez compris le principe? D'accord? Simplement, il y a un enseignement des Chachamim qui est que celui qui vit un miracle ne se rend pas compte qu'il est en train de le vivre. En ba'al hannes makir benisso. Celui qui vit un miracle ne se rend pas compte de son miracle. Il y a d'ailleurs une version dérivée, En Baal Hagan, Makir Babal Hagan. Mais ça n'a rien à voir, c'est pour les hébraïsants. Et donc, bon, alors là, vous... Ah, ça s'appelle un délai. Bon, est-ce que je peux continuer? Je suis assez troublé du fait que personne... sauf une courageuse, n'est de questions jusqu'à présent. À moins que ce soit tellement clair et tellement évident. Bon, d'accord, ben, je vais continuer. Tant pis pour vous. Oui, allez-y.
Si je comprends, toutes les sorties, hein,
oui.
Quand on revient, c'est un peu aussi l'immotamachin.
Oui, nous avons trois. En fait, nous avons historiquement, typologiquement, trois sorties. La sortie d'Égypte, la sortie de Babylone et la sortie de Édom. L'événement que nous vivons actuellement, avec tous les détails que vous avez mentionnés, tout cela fait partie d'un seul processus, qui est la fin de Galout Édom. Oui. Ah, d'accord. C'est pas obligatoire. Hein, oui.
Mais si ça peut aider.
Non, mais j'ai peur des questions des rabbins.
Oui. Il me semble qu'il y a un autre texte de Moran, qui dit que le monde comprend six millénaires. Les deux premiers millénaires sont ceux du Tau.
Oui.
Donc du néant.
Enfin, oui, de l'insignifiant.
Puis les deux deuxièmes millénaires sont
pour la Torah.
Et le dernier millénaire sont Yemot HaMashiach. Oui. Ça signifierait que les deux derniers millénaires, on est dans le sixième, donc celui qui a précédé le nôtre, s'appelle déjà Yemot HaMashiach.
Très très bonne question. J'ai une très très bonne réponse. C'est que la Gemara elle-même, quand elle amène ce texte, ajoute une phrase. Et elle dit « Uva avonotenu, cher Abou, yatsu ma sheyatsu. » Et par nos péchés qui sont devenus abondants, il en est resté ce qu'il en est resté. Ça veut donc dire que les 2000 ans de Yemot HaMashiach sont les 2000 ans où ça peut se produire. C'est d'où l'erreur de Rabbi Akiva qui a pensé qu'on pouvait amener le Mashiach avant l'an 4000. La révolte de Bar Korba, c'était avant l'an 4000. C'est ça, c'est en réaction à Rabbi Akiva que ça a été dit. Je pense que la réponse est suffisante pour l'instant. Bon. Maintenant, ne vous imaginez pas que les Chachamim vont se laisser faire. Vous avez compris bien que l'argument de Benzoma est trop facile. Il a amené un verset de Jérémie et ça y est, il détruit l'opinion des Chachamim comme ça. Est-ce que les rabbins qui étaient opposés à Benzoma ne connaissaient pas le verset de Jérémie ? C'est impensable. Un rabbin, surtout de l'époque de la Mishnah, connaît tous les versets de la Bible. Donc, ils ont une autre manière de le lire. Amroulo, ils lui ont répondu. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu ? Lo sheteaker yitziat mitzray mimekoma. Ça ne veut pas dire, c'est-à-dire ce que dit le prophète Jérémie, ne veut pas dire que la sortie d'Égypte sera déracinée de son lieu. C'est-à-dire, on s'en souviendra quand même. Et là, mais, Shetehe Shi'abud Malchuyot Ikar. Mais l'essentiel sera l'indépendance politique, Veitziat Mitzrayim Tafello, et la sortie d'Égypte lui sera accessoire. C'est-à-dire, les Chachamim sont d'accord avec Benzoma que l'événement de l'État d'Israël, c'est plus important que la sortie d'Égypte. Mais ils disent, ça ne veut pas dire qu'elle sera oubliée. Elle sera secondaire. De remarquer que pour la définition des Chachamim, ils sont plus précis que Benzoma. Benzoma avait dit que le Yemot HaMashiach, le temps messianique, c'est le temps du rassemblement des exilés. D'après les Chachamim, c'est l'indépendance politique, She'arbud Malchuyot. C'est-à-dire le moment de l'indépendance politique, et ça s'est passé déjà il y a 63 ans, c'est le moment historique que la Halakha appelle Yemot HaMashiach. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, ça n'a rien à voir donc avec une apocalypse ou une eschatologie de type mystique. C'est un événement politique. C'est ça le Yemot HaMashiach. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'événement politique n'a pas des conséquences spirituelles. Il y a des conséquences spirituelles. Mais ça commence tout d'abord par le politique. Il y a très longtemps un bachour yeshiva un peu compliqué qui est allé voir les rabbins. C'était il y a très longtemps. Il leur a dit, vous autres les rabbins, vous attendez que le fils de David arrive pour vous libérer de la domination romaine. Mais moi, je suis venu pour sauver les âmes. Alors les rabbins lui ont dit, écoute Jésus, tu n'as rien à faire ici. C'est-à-dire, ce qui a fondé le christianisme, c'était le refus de la dimension politique de la Géoula. Et de là, on peut comprendre qu'est-ce que pensaient les rabbins de l'époque. D'accord ? Enfin, revenons donc à notre étude. Les Chachamim, eux, pensent que la sortie d'Égypte ne sera pas oubliée. D'ailleurs, on voit dans la réalité quotidienne de la société israélienne, on voit que les paroles des Chachamim se sont réalisées. Et les paroles du prophète aussi. Mais avant de vous amener la preuve, je voudrais d'abord faire une déclaration. Vous êtes d'accord ? La déclaration est la suivante. Je suis contre la consommation de Hametz à Pessah. Voilà, fin de déclaration. Maintenant, quoi ? Par des Juifs. Ouais. Je suis contre que des Juifs mangent du Hametz à Pessah. Voilà, c'est clair ? Bon, maintenant, je vais continuer. Il y a, statistiquement parlant, en Israël, il y a plus d'Israéliens qui font de la viande grillée à Yom HaAtzmaout que d'Israéliens qui font le Seder. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la conscience collective des Juifs, le retour d'Israël a pris une place plus importante que la sortie d'Égypte. C'est exactement ce que dit le prophète. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger des matzot et ne pas manger de Hametz à Pessah. C'est pour ça qu'il y avait la déclaration auparavant, pour ne pas me faire lapider. Mais je voulais d'abord mettre ça au cœur. Et donc, il y a ici un changement qui fait que c'est secondaire. D'ailleurs, vous savez que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, il y a eu à peu près la même chose. Vous savez que, avant de sortir d'Égypte, nos ancêtres travaillaient dur. Et quand ils revenaient du travail, ils se mettaient au coin du feu. Et ils disaient, oh, ça a été dur aujourd'hui. J'ai construit 2 pyramides. Ah bon ? Ah, moi j'en ai construit 3. Et ils disaient, mais quand est-ce qu'on va enfin sortir d'ici ? Et ils se disaient, tu sais, de même que Akadosh Baruch Hu a fait sortir nos ancêtres de Ur Kasdim et qu'il a fait sortir Yaakov de Haran, un jour il nous fera sortir d'Égypte. Il y avait donc une Agada. C'était la Agada d'Ur Kasdim. Et puis, un jour, on est sorti d'Égypte. Alors, de quoi on a commencé à parler ? De la sortie d'Égypte. Et l'ancienne Agada, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Elle n'a pas entièrement disparu. Il en est resté quelque chose dans notre Agada. Arami Oved Avi. Be'evre Nahar Yashu Avotechem Eolam. Il y a des textes comme ça. Il y a des petits points comme ça dans la Agada de Pessah qui mentionnent la sortie d'Ur Kasdim. Mais l'essentiel, c'est la sortie d'Égypte. Eh bien, viendra un temps, Bimera Be'amenu Amen, où l'essentiel de la Hagada, ça sera comme ça. On commencera à parler de la sortie d'Égypte, et puis après on parlera de la guerre des 6 jours, de l'opération Entebbe, de l'assassinat de Rabin, etc. C'est-à-dire, on parlera des événements du temps du retour. D'accord ? Et de l'actualité, etc., de la bombe iranienne, enfin, on parlera de tout ça. Ça sera ça. Et nos descendants, nos arrière-petits-enfants diront, nos ancêtres étaient des géants. Ils ont vécu lors de la sortie d'Europe. Bon, tout ça c'est très joli, mais ça pose un problème. Je ne suis pas encore arrivé au vif du sujet. Tout ça c'était en introduction. Il nous reste du temps ? Oui, il nous reste du temps. Il y a un problème dans la lecture des Chachamim. Les Chachamim, qu'est-ce qu'il a dit le prophète ? Le prophète a dit, on ne dira pas la sortie d'Égypte. Et qu'est-ce que les Chachamim ont dit ? Que quand le prophète dit qu'on ne dira pas, ça veut dire qu'on dira. D'accord ? C'est ce qu'ils ont dit, non ? Le verset ne veut pas dire qu'on ne parlera pas de la sortie d'Égypte, mais qu'elle sera simplement accessoire. Ça veut dire que quand le verset dit « on ne dira pas », ça veut dire qu'on dira, mais on dira un peu moins. Mais il faut prouver une lecture pareille. À nouveau, la question, le ballon retombe dans le camp des Chachamim. Et ils doivent prouver que leur manière de lire le texte est bonne. Il faut donc trouver un autre texte dans lequel on apprend que ne pas dire veut dire qu'on dit. Et on va trouver le verset, on l'a trouvé. Kayotsebo, c'est dans la dernière ligne du premier rectangle. N'est-ce pas ? Kayotsebo, Ata Omer, de la même manière on dit, Lo yikare shimcha od Yaakov, on n'appellera plus ton nom Yaakov. Ki im Israël yeshemecha, mais c'est Israël que sera ton nom. Vous connaissez ce verset de la Torah ? Et pourtant, après le changement du nom de notre ancêtre Yaakov en Israël, le verset continue à l'appeler Yaakov. Ça veut donc dire que bien qu'il ait dit par Dieu lui-même, on ne dira pas, ça veut dire qu'on dira. N'est-ce pas ? Lo sheyaker, là on passe au deuxième rectangle, et là vous êtes à la première ligne du texte du deuxième rectangle. Lo sheyaker Yaakov imekomo, ça veut donc dire que Yaakov ne sera pas déraciné de son lieu. Et là Israël est Icar, mais Israël est l'essentiel. Ve Yaakov t'a fait lo, et Yaakov lui est associé. Ah, bon, alors là, je veux tirer des conclusions très importantes de ce que nous venons de lire. Le passage d'une époque où l'essentiel, c'est la sortie d'Égypte, à l'époque où l'essentiel, c'est la sortie d'Europe, c'est parallèle, selon la Guémara, au passage de l'identité Yaakov à l'identité Israël. Ça veut dire que le retour des exilés n'est pas simplement une transformation géographique ou politique, c'est une transformation de l'identité. Il y a un moment de l'histoire où nous sommes Yaakov et un moment de l'histoire où nous sommes Israël. Alors c'est quoi être Yaakov ? C'est quoi être Israël ? Vous avez vu le titre là, de la photocopie, il y a écrit « Du juif à l'hébreu ». N'est-ce pas ? C'est écrit en haut. Alors là, je trouve la clé de, ce que, de notre étude. Il y a un temps dans l'histoire où les Hébreux se comportent comme des Juifs. Il y a un temps dans l'histoire où des Juifs redeviennent des Hébreux et ça s'appelle un Israélien. Et entrons un peu plus dans le détail. Le mot Juif, ça vient de quoi d'abord ? C'est une déformation du latin Judaeus, judéen. D'accord ? De judéen, c'est devenu Juif. C'est quoi un judéen ? Dans l'Antiquité, les judéens, c'était les ressortissants du royaume de Juda. Le royaume de Juda était un royaume. Un royaume, donc une entité politique. Être juif voulait dire à l'époque être de nationalité judéenne. Mais c'était des judéens en exil. Imaginez que par exemple, il y a un État qui soit détruit. Imaginez que, par exemple, un jour, le Liechtenstein disparaisse. Hein? Bon. Et que les Liechtensteiniens partent en exil. Eh bien, on dira que ce sont des ressortissants de la principauté de Liechtenstein qui sont en exil. N'est-ce pas ? Mais c'est toujours une définition d'ordre politique, national. C'est une citoyenneté. Mais les Hébreux, il leur est arrivé après la même chose. Ils sont devenus des Juifs. Et quand, pendant très longtemps, une communauté continue à exister sans cadre national, sans État, alors on a commencé à se comporter comme une religion. Nous avons fondé des synagogues. Et nous avons, quand on parlait de nous, alors qu'on aurait dû dire les Juifs et les Babyloniens, les Juifs et les Romains, on dit maintenant les Juifs et les chrétiens, les Juifs et les musulmans. C'est-à-dire qu'on est passé d'une définition nationale à une définition religieuse. La définition nationale implique ce qu'on appelle en hébreu Kedushat Aklal, la sainteté collective. La sainteté qui se manifeste à travers une collectivité. Et puis, quand nous sommes devenus une religion, alors nous sommes occupés de ce qu'on appelle Kedushat Aprat, la sainteté individuelle. Et nous avons pris l'habitude de penser que nous sommes une religion. Et d'ailleurs, nous avons diffusé ce mensonge un peu partout. Nous l'avons même enseigné aux Français. C'est-à-dire que jusqu'à la Révolution française, jusqu'à l'émancipation, les Juifs étaient considérés toujours comme des membres de la nation juive sous protection du roi de France. Et puis avec l'émancipation, le Sanhédrin de Napoléon et tout le reste, eh bien, le judaïsme est devenu un culte, donc personnel. Les Juifs sont devenus les citoyens des pays dans lesquels ils vivent. Et donc on est devenu un Allemand ou un Français de confession mosaïque. Comme disait Manitou, en France il y a la confession mosaïque, mais en Israël il y a une mosaïque de confession. Et donc, cette situation a commencé à... Et ça, c'est ce qu'on appelle Yaakov. L'identité d'Israël en tant qu'individu, c'est Yaakov. Une fois revenu à notre identité nationale, nous devenons Israël. D'accord ? C'est pour ça que Manitou se définissait comme un Hébreu d'origine juive. Il était passé par ce moment de l'histoire, cette fin de moment de l'histoire où nous étions une religion pour devenir Israël. Ne croyez pas que ça va être si simple que ça, ça va se compliquer encore plus. D'accord ? Oui.
Juste quelque chose qui me gêne un peu, c'est que c'est très joli, mais en même temps, l'hébreu, par définition, c'est aussi individuel que son fils et sa descendance directe. Donc, c'est joli comme scénario, mais en même temps, on peut tout dire comme ça.
J'ai pas très bien compris. Par exemple, oui.
Je parle d'Abraham,
oui.
qui c'est un individu, et pourtant c'est lui le premier hébreu. Donc on peut faire des jeux comme ça, mais la base n'est pas très solide.
Une seconde, la question se base sur Abraham ou sur Yaakov ?
Sur les deux.
Non.
Parce que vous dites, Yaakov c'est le juif, Israël c'est.
L'israélien, oui.
Enfin, Yaakov c'est l'individu.
Israël, le collectif,
c'est l'hébreu,
le national, oui.
Ce que je veux dire, ce qui m'a troublé un peu, c'est que le premier hébreu, c'est aussi un individu. Donc il y a un peu une contradiction dans la chaîne humaine.
J'ai très bien compris. Très bonne question. J'ai une très bonne réponse. Abraham était le dernier des Hébreux. Non pas le premier. De quoi s'agit-il ? Quand on voit dans le texte de la Torah, dans la paracha de Noar, on nous parle d'un ancêtre très lointain qui s'appelait Héber. Et les descendants de ce Héber, c'était les Béné Héber, les fils de Héber, ou si l'on veut, les Ivrim. Plusieurs générations après, nous arrivons à une famille des Hébreux, la famille de Terach, qui, comme par hasard, n'est pas dans le pays des Hébreux, mais elle se trouve à Our Kasdim. C'est une famille exilée, persécutée, et qui, à la suite de la persécution, décide de revenir dans le pays des Hébreux, mais qui est occupé à l'époque par des Cananéens. Et donc, on peut dire qu'Abraham a eu le courage de vouloir restituer l'identité des Hébreux qui avait disparu. Il était le dernier rescapé de cette nation hébraïque. Et ça a mis 3 générations pour que, sortant de l'araméen, on redevienne Israël. On redevienne des Hébreux, c'est ce qu'on appelle Israël. D'accord ? C'est pour ça que ça prend 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. D'accord ? Mais ça demanderait une étude de texte assez poussée. Et d'ailleurs, je donne un enseignement sur le site du Machon Meir, si déjà on en parle, un cours sur le livre de Bereshit, qui dure toute l'année à peu près. On vient de commencer d'ailleurs la semaine dernière, au début de cette semaine, et là on peut rentrer dans le détail. D'accord ? D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a ici des prospectus pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui veulent étudier, garçons ou filles, au Machon Meir, programme garçon, programme fille, tiens. Je ne pensais pas faire de la pub, mais si déjà. Donc, continuons. D'accord ? Je peux continuer ? Bon. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je vais vous raconter une histoire. Vous voulez entendre une histoire ? Une histoire. J'étais un jour invité à Jérusalem à parler devant un groupe d'ecclésiastiques, des catholiques, dominicains. Il y avait là-bas des curés, il y avait des bonnes sœurs, il y avait toutes sortes. Ils étaient français, c'était donc des ecclésiastiques francophones qui étaient venus à Jérusalem pour étudier pendant un an. Et bon, j'étais envoyé par un de mes maîtres qui m'a dit, il faut que tu y ailles. Bon, alors j'y étais. On fait ce que les maîtres disent. Et ils ont demandé, vous savez comment ils sont. Monsieur le rabbin, nous voudrions que vous nous parliez de la signification religieuse de Yom HaAtzmaut. Alors je leur ai dit, on a parlé pendant 2h30 quand même, c'était assez passionnant. Je leur ai dit, mais vous savez, il y a un petit problème. Vous me demandez de parler de la signification religieuse de Yom HaAtzmaut. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de signification religieuse à Yom HaAtzmaut. De même qu'il n'y a pas de signification religieuse à la fête de Pessah, ou au Shabbat, ou à aucun des commandements du judaïsme, puisque le judaïsme n'est pas une religion, mais une identité nationale. Akadosh Baruch Hu, quand il a choisi Israël, il a choisi une nation, pas une religion. Donc toutes les mitzvot, d'ailleurs c'est ce que nous disons, quand nous faisons une mitzvah, nous disons « Asher kidesha nu be mitzvota vitziva nu ». Il nous a sanctifiés et il nous a donné la mitzvah interne. Donc c'est au niveau collectif que ça se produit. Je me rappelle que ça a été un gros choc. Et j'ai reçu là-bas un paquet gigantesque de questions, d'objections. Alors, vous pouvez poser deux ou trois questions dans un cours, tandis qu'eux, ils en ont posé un paquet énorme. Comment est-ce que... Des chrétiens, attention. Comment est-ce qu'on peut sanctifier un État qui transgresse le Shabbat? Où les jeunes filles ne sont pas habillées de manière décente? Et puis, de toute façon, il faut attendre que le Mashiach vienne. Et puis, à part ça, c'est quoi l'orgueil militaire qu'Ochri Vortzemiadi? Là, c'est la puissance de mon bras qui a fait cette réussite. Tout ça, c'est interdit. J'avais l'habitude d'entendre ces questions venir d'ailleurs. Mais j'ai trouvé la source. Et enfin, bon, mais vous comprenez à quel point c'est, disons, c'est remuant. C'est remuant, c'est parce que vous comprenez que nous passons ça. Alors maintenant, le problème, c'est que la société israélienne, elle est déchirée. Elle est déchirée depuis assez longtemps, d'ailleurs. Elle est déchirée depuis, avant l'État d'Israël, depuis les débuts du sionisme au XIXe siècle. Il y a eu une déchirure au sein du peuple juif. Entre ceux qui ont décidé de continuer à faire les mitzvot, et que le sionisme n'intéressait pas, et ceux qui ont dit, pas besoin des mitzvot, il y a le sionisme. D'où vient le malentendu? C'est un malentendu entre Yaakov et Israël. C'est-à-dire ceux qui pensent que tout se définit à travers Yaakov, donc pas besoin d'Israël, et ceux qui disent il suffit d'Israël, pas besoin d'Yaakov. Et la réconciliation entre Yaakov et Israël a commencé, je veux dire, au niveau de la société, lors de la guerre des Six Jours. La guerre des Six Jours a été, vous vous en rappelez certainement, enfin moi je m'en rappelle, la guerre des Six Jours. Vous vous rappelez de la guerre des Six Jours? Quand vous étiez déjà né? Et la guerre des Six Jours, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Tzahal, l'armée laïque d'un pays laïque, a réalisé un événement biblique. Libérer Jérusalem, le mont du Temple, Eretz Israël. Ça a remué les consciences, ça. Tout le monde était bien embêté, d'ailleurs. Les religieux ont dit, mais c'est de eux que ça vient, la Géoula, ça va pas. Et les laïcs, ils ont dit, comment? Nous, on a fait quelque chose de saint, de sacré, ça va pas. Mais, depuis, la société est en train d'évoluer. Et ça commence à se transformer. Oui. Vous connaissez l'écrivain israélien, on a fait beaucoup de bruit autour de lui, Amos Oz. Amos Oz est un écrivain israélien. Quelle est sa valeur littéraire, je ne peux pas en juger. Il a, une fois dans une de ses conférences, à Ofra, il a dit « Quand j'étais jeune, avant la guerre des Six Jours, la société était claire. Nous, les ressortissants du kibbutz, nous portions notre vêtement, notre doubonne. Vous savez ce que c'est le doubonne? C'est un horrible manteau militaire israélien, très, très inconfortable et très laid. Mais enfin, ça fait partie... bon, c'est subjectif, vous allez dire. Oui, d'accord. Bon. En tout cas, donc, il disait, nous autres... Comment? Bon, ça réchauffe parfois. D'accord. En tout cas, Amos Oz dit, nous étions sortis de troupes d'élite de Tzahal et nous portions avec orgueil notre doubonne. Il y avait des quartiers loin de chez nous où les gens ne portaient pas de doubonne, ils étaient habillés en noir. Et ils demandaient de vivre à l'écart de la société. L'essentiel, c'est qu'on ne les prenne pas à l'armée et qu'on ne voyage pas le Shabbat dans leur quartier. Et tout le monde était content. Et puis un jour, après la guerre des Six Jours, j'ai vu les colons, les mitnachalim, monter sur les collines du Shomron avec mon doubonne. Et j'ai compris qu'on m'avait volé l'État. C'est-à-dire, c'est très clair. Il n'a pas supporté la réconciliation de Yaakov et Israël. Si on reprend les termes de la Guémara. Bon, c'est très joli tout ça. Mais vous allez voir qu'il y a une suite à la Guémara. Ne vous en faites pas, il n'y en a plus pour très longtemps. On a quand même étudié beaucoup du texte. Donc, vous allez devoir être patient, mais enfin, pas trop. Vechenu Omer. Et on amène ici encore un autre verset, tiré de Yesharia, Isaïe, chapitre 43. Altizkeru rishonot vekadmoniot altidbonanu. Ineni ose chadasha atatitzmar. Donc, que nous dit le prophète ? Ne vous souvenez pas des premières choses. Et les choses antiques, ne les considérez pas. Car je fais quelque chose de nouveau qui va maintenant croître. Je reprends le verset en hébreu. Altizkeru rishonot vekadmoniot altidbonanu ineni ose chadasha atatitzmar. Alors, que dit l'interprétation de la Guémara ? Altizkeru rishonot zeshiabud malchuyot. Ne vous souvenez pas des premières choses, c'est l'indépendance politique. Vekadmoniot altidbonanu zoitziat mitzraim. Ne considérez pas les choses de l'Antiquité, c'est la sortie d'Égypte. Ineni ose chadasha atatitzmar, car je vais faire quelque chose de nouveau qui va maintenant croître. Alors remarquez que d'après la Guémara, il y a un troisième événement. Un troisième événement qui sera tellement gigantesque qu'il effacera du souvenir collectif la sortie d'Égypte et l'État d'Israël. Ces deux événements qui sont tellement importants pour nous seront minimisés à cause du troisième événement. Oh là là, ça fait peur. C'est quoi le troisième événement ? Tanné Rav Yosef, enseignement de Rav Yosef. Zo milchemet Gog u'Magog. C'est la guerre de Gog et Magog. C'est tellement grand que ça va l'emporter sur la sortie d'Égypte et la fondation de l'État d'Israël. Ah bon ? Machal emad avar domé, à quoi cela peut-il ressembler ? Le Adam Shaya me'aler baderech ufagabo ze'ev venitzal mimenu. À un homme qui marchait sur son chemin et qui a été attaqué par un loup et qui en a été sauvé. Vayam et sa père voler ma'ase ze'ev. Et alors il raconte à tout le monde l'histoire du loup. Pagabo arrive et Nitzal Mimenu, Vayam et sa père volèrent Maasehari. Et puis après, il a rencontré un lion. Un lion, c'est plus grave qu'un loup. Il a été sauvé de lui. Et alors, il ne parle que de l'histoire du lion et l'histoire du loup. Ben, il a oublié. Pagabo Nahash, rappelez-vous que l'Angleterre a pour symbole un lion. C'est-à-dire que la sortie du joug britannique, c'est être sauvé du lion. Pagabo Nahash, Nitzal Mimenu, il a rencontré un serpent. Il est sauvé de lui. Ça, c'est Gog et Magog. Shachar Maase Shneem, il a oublié les deux premières histoires. Veayam et sa père voler Maase Nahash, il ne parlait plus que du serpent. Kach Israël, Tsarot Acharonot, Mishakrot et Tarishonot. De même, Israël, les derniers malheurs font oublier les premiers. Enfin, la sortie des premiers, les derniers malheurs font oublier la sortie des premiers. C'est quoi cette histoire de Gog et Magog ? Alors, évidemment, on pourrait faire toute une étude sur Gog et Magog. Je ne vais pas le faire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si on a vu que la sortie d'Égypte a fondé Yaakov, que le temps messianique, ça fonde Israël, donc Gog et Magog, ça doit amener une troisième identité. Ni Yaakov, ni Israël. Mais alors quoi ? Le nom de notre ancêtre dans la Torah, il y en a trois, n'est-ce pas ? Il s'appelle Yaakov, il s'appelle Israël, et il a encore un autre nom, Yeshurun, évidemment. Comment est-ce que je sais ça ? C'est écrit en toutes lettres dans les korbanot qu'on dit au début de la prière le matin. Il y a une différence d'ailleurs entre les sfaradim et les ashkenazim. Les ashkenazim sont meilleurs que les sfaradim de ce point de vue-là. Les ashkenazim font confiance aux fidèles qu'ils vont dire les korbanot, donc ils les disent à la maison. Les sfaradim ne font pas confiance aux fidèles, donc ils les disent à la synagogue, pour les obliger à le dire. Et donc... Parce que les Ashkenazim certainement disent les korbanot, mais chez eux à la maison. Et donc vous avez Yaakov, Israël et Yeshurun. Et donc au passage à Gog et Magog, on arrive à la troisième identité, celle de Yeshurun. Mais c'est quoi cette troisième identité ? Eh bien cette troisième identité, c'est celle qui est réalisée par la guerre de Gog et Magog. Mais elle sert à quoi, la guerre de Gog et Magog? Hein, dans Ézéchiel, chapitre 38. Vous ne connaissez pas la guerre de Gog et Magog? Mais si, on l'a lu, vous savez quand? À Chol HaMoed, à Shabbat Chol HaMoed de Sukkot. Et comment je sais que vous avez écouté la Haftara? Parce qu'à Sukkot, on n'a pas le droit de dormir en dehors de la Soukha. Et donc, comme vous étiez à la synagogue au moment de la lecture, vous n'avez certainement pas dormi, donc vous avez entendu la Haftara. Dans la Haftara, il est dit en toutes lettres que lors de la grande guerre, de la fin de l'histoire, eh bien, le résultat c'est « Vid gadilti, vid kaddishti, je serai grandi et sanctifié, venodati le'ene amim rabim, je serai connu aux yeux de nombreuses nations, viadero ki ani Hashem, ils sauront que je suis l'Éternel. » Donc la finalité de la guerre de Gog et Magog, ce n'est pas pour Israël, c'est pour les goyims. C'est-à-dire que Israël, à un moment de son histoire, doit remplir une fonction universelle. C'est-à-dire que le retour d'Israël sur sa terre est le prélude à un enseignement qui doit concerner l'humanité tout entière. C'est ça Yeshurun. D'ailleurs, ça commence aujourd'hui. Ça commence tout d'abord parce qu'il y a une critique au sein de la société d'Israël contre le sionisme. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le post-sionisme. Le post-sionisme, ça veut dire que le sionisme, ça appartient au passé, c'est désuet. Hein?
Il y avait une conférence hier.
Il y avait une conférence hier?
Oui, sur la
délégitimation. Je trouve, ce que vous dites là me fait vous admirer pour votre courage. Vous avez déjà écouté une conférence hier soir et vous venez en écouter une autre ce soir. C'est absolument incroyable. Kol hakavod. Dans ma communauté, jamais ça se passerait. Il y a une conférence, après 2 mois, plus personne vient.
C'est très intense.
Donc Kol hakavod, c'est certainement grâce à votre rabbin, entre autres. Mais derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et donc, aujourd'hui, il y a une critique du sionisme, pour une raison très simple. C'est que dans ce qu'on appelle le globalisme mondial, alors tout ce qui est national a l'air un peu étriqué. On se dit, mais pourquoi s'occuper des juifs et pas s'occuper des goïms, etc., etc. Et donc, ça a des conséquences d'ailleurs même au niveau politique. Il y a une remise en question de la légitimité même de l'identité sioniste, pas seulement religieuse. Et d'ailleurs, j'ai parlé l'autre jour avec le président de l'agence juive, Anatoly Sharansky, qui m'a dit, aujourd'hui, des juifs que je rencontre dans le monde entier me disent qu'être juif, c'est s'occuper des autres. Uniquement. C'est-à-dire envoyer une délégation humanitaire à Haïti, ça, c'est juif, mais tout le reste, non. D'accord? Mais ça vient d'où, ça? Ça vient, il y a un principe des kabbalistes qui est « Klipa kodevet lapri ». L'écorce vient avant le fruit. C'est-à-dire tout phénomène positif commence par un phénomène négatif, de reniement de son identité. Mais ça veut dire que quand ça va bien mûrir, eh bien, c'est là que nous allons, nous autres, les Hébreux, prendre sur nous, en tant qu'État d'Israël, de faire le tikkun olam, la réparation du monde. De plus, on se rend compte que de nos jours, il y a de plus en plus de goyim qui, indépendamment des attaques médiatiques contre Israël et de l'atmosphère extrêmement agressive qu'il y a contre le peuple juif, se rendent compte que la source de la lumière se trouve dans l'État d'Israël. Personnellement, j'ai l'occasion de les rencontrer plusieurs fois, et c'est pour ça que je m'occupe également de ça. Mais en tout cas, vous voyez que nous sommes ici dans une phase encore plus critique du retour d'Israël. Nous avons passé déjà depuis 63 ans le passage de Yaakov à Israël. Depuis 40 ans, avec la guerre des six jours, nous avons réconcilié Yaakov et Israël. Et maintenant, nous sommes en train de passer d'Israël à Yeshurun et de rayonner sur l'ensemble de l'humanité. Voilà, c'est ça donc un peu le juif à l'hébreu. Parce que quand on se demande, là je prends encore 1 minute et 30 secondes, je pourrais expliquer qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah. Une mitzvah, ça peut être compris de 3 manières différentes. Et vous allez voir à quel point c'est important. On peut s'imaginer qu'une mitzvah, c'est un acte religieux. Mais on peut également comprendre qu'une mitzvah, c'est un acte national, comme je l'ai dit aux ecclésiastiques de Jérusalem. Mais on peut très bien comprendre également qu'une mitzvah, c'est un acte universel. Je vais vous donner pour cela un exemple, et on va s'arrêter là. Les téphilines, qui ont l'air d'être un acte cultuel par excellence, n'est-ce pas? C'est un acte religieux, ça se fait à la synagogue, c'est un peu bizarre. On met les téphilines. Le Rambam nous dit, pourquoi est-ce qu'il faut mettre les téphilines? Ben parce que ça donne de la Yirat Shamayim, de la crainte du ciel. Quand on est avec les téphilines, ben on est habité de Yirat Shamayim, c'est très bien. Ça, c'est donc une motivation religieuse. Vous regardez dans la Torah, pourquoi est-ce que la Torah dit de mettre les téphilines? En souvenir de la sortie d'Égypte. C'est donc un souvenir d'une libération nationale. Et que dit la Torah dans la paracha de Kitavo, que nous avons lu avant Rosh Hashanah? Verahu kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha. Et toutes les nations du monde verront que le nom de Dieu réside sur toi. C'est donc un acte universel. Cette analyse que je vous ai faite là pour les téphilines est en vérité vraie pour toute la Torah, mais ce n'est pas le sujet de notre étude maintenant, parce que vous avez le droit quand même de préparer Shabbat et de vous reposer un peu. Alors, merci de votre attention. Maintenant, si vous avez des questions, je pense que c'est le moment. Nous allons donner quelques minutes pour les questions. S'il n'y en a pas, eh bien, à bientôt. Shalom.